Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
Il est 19h21 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. On va s'intéresser aux prises de position, aux déclarations des membres de la France Insoumise, puisqu'après Rima Hassan, c'est au tour de la députée Mathilde Panot d'être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Selon Jean-Luc Mélenchon, c'est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie qui a pour but de protéger un génocide. Bonsoir Louis Dragnel.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Merci d'être en direct dans Europe 1 soir. Tout le monde le sait, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, bon, il y a plusieurs sujets. On l'a déjà dit un petit peu, mais Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de cette campagne européenne, est dans une stratégie de victimisation. Il fait campagne exclusivement sur la question Israël-Hamas, sur le conflit au Proche-Orient, et donc force tous les partis politiques, tout le monde à se positionner par rapport à ces sujets qui, je fais une petite digression, n'ont absolument rien à voir avec les débats européens. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois, c'est la première fois depuis beaucoup de campagnes européennes que je vois des débats qui n'ont vraiment strictement aucun lien avec les élections européennes. Souvent, les débats nationaux se télescopent avec les débats autour des élections européennes, mais là, vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon poursuit une stratégie d'aller conquérir un électorat dans les banlieues, islamisé, radicalisé. Tout ça, vraiment, est conscientisé. Tout ça est assumé, même au sein de la France insoumise. Donc, c'est un objectif électoral. Donc, ce qui devait arriver à un moment arrive. C'est-à-dire qu'à force de vouloir entretenir la confusion entre l'antisionisme, l'antisémitisme, systématiquement en prenant la défense, parfois d'ailleurs du Hamas, de la population de Gaza contre l'oppresseur israélien, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon, en oubliant totalement que c'est Israël qui a été attaqué, qui a été victime d'une attaque terroriste. Voilà, tout ça a un but politique qui est de récupérer un électorat très précis, très particulier, dont on vient de parler. Et donc Jean-Luc Mélenchon se pose systématiquement en victime du système. Et donc là, il a trouvé l'argument suprême, c'est-à-dire qu'il dit, il sous-entend que Emmanuel Macron envoie la police, en réalité, empêcher, entraver l'action à la fois de Mathilde Panot, donc qui est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et aussi entravée Rima Hassan, donc qui est une militante politique de La France Insoumise, qui est candidate aux élections européennes et qui elle-même a déclaré que pour elle le Hamas n'était pas une organisation terroriste.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est elle aussi convoquée par la police. On a entendu dans le journal l'avocate de Mathilde Panot qui parle d'une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression. C'est le grand mot là.
Alors c'est le grand mot, mais si on regarde bien quel est le périmètre de la liberté d'expression, la liberté d'expression ne permet pas de faire la promotion de délits. Faire l'apologie de terrorisme, c'est un délit. Faire l'apologie de l'antisémitisme, c'est un délit. Et donc tous les amoureux de la liberté d'expression, parfois on a l'impression qu'en fait la liberté d'expression, on peut absolument dire toutes les horreurs qui nous traversent l'esprit, qui nous passent par la tête. Eh bien non, la liberté d'expression, justement, elle est garantie. Si on veut préserver la liberté d'expression, il y a besoin d'un cadre. Et donc vous pouvez pas faire l'apologie de viol, l'apologie de violence, de la même manière l'apologie du terrorisme et l'apologie de l'antisémitisme. Eh bien, ne s'inscrivent pas dans le cadre de la liberté d'expression.
Est-ce que vous diriez que les dérapages de Jean-Luc Mélenchon sont volontaires? Par exemple, on a beaucoup parlé de sa comparaison du président de l'Université de Lille avec un nazi la semaine dernière. Est-ce que tout ça rentre dans ce cadre-là? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça lui échappe?
Bien sûr, souvenez-vous de Mathilde Panot qui avait parlé d'Elisabeth Borne comme d'une rescapée parce que son père était rescapé des camps de concentration. On se souvient aussi de Jean-Luc Mélenchon qui avait reproché à Yael Braun-Pivet, qui est d'origine juive, d'être allé camper en Israël. Tout ça, le champ lexical, alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais le champ lexical des camps de concentration s'est invité aussi dans la campagne. Jouant toujours sur les mots, c'est-à-dire camper, oui, on peut aller camper, sauf qu'il s'agit d'Yael Braun-Pivet et en Israël. Rescapé, oui, on peut parler de rescapé, de quelqu'un d'un rescapé d'un naufrage, sauf que Elisabeth Borne, en plus, c'est un point sensible pour elle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elisabeth Borne, son père a vécu des atrocités dans les camps de concentration et c'était un rescapé. Et donc tout ça est fait, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup trop intelligent pour que ce soit simplement le fruit du hasard et tout son état-major, pas tout son état-major d'ailleurs, parce que ça suscite des divisions. Alexis Corbière n'est pas à l'aise typiquement avec ça. Je pense à Monsieur Ruffin aussi.
François Ruffin,
qui lui très rapidement d'ailleurs s'est désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise pour dénoncer un peu cette dérive et expliquer que dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, c'est pas deux armées qui se combattent, c'est un groupe terroriste contre une armée légitime qui a été attaquée.
Mais est-ce que cette stratégie politique, elle fonctionne dans les urnes de ce qu'on sait des intentions de vote ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis le début de ces élections européennes, globalement, alors c'est une campagne qui est compliquée pour la gauche, pour les gauches, parce que vous savez, au sein de la NUPES, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, en plus, qui présente une liste avec Place Publique, donc portée par Raphaël Glucksmann, et puis il y a les écologistes, il y a aussi les communistes. C'est une élection qui est toujours un peu compliquée, avec des jeux de vases communicants. Lors des dernières européennes, c'était les écologistes qui avaient profité un peu du vote utile des élections européennes. Mais on voit que, globalement, le discours de Jean-Luc Mélenchon porte dans les quartiers, il y a une traduction électorale, il y a des intentions de vote derrière tout ça. Alors, depuis hier ou avant-hier, cette stratégie, il y a quand même un petit doute, parce qu'il y a un sondage qui est sorti et qui montre que Monsieur Ruffin...
Ah, le fameux sondage secret qui a été publié dans Libération.
Exactement, merci.
Je l'avais noté parce que, en fait, ce sondage montre que François Ruffin est le mieux placé à gauche en 2027. Il aurait 29% au premier tour contre 18% pour Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, et ça c'est très, très intéressant. Non pas, on va pas faire de la politique fiction alors que l'élection présidentielle a lieu dans très longtemps, mais ça montre que la ligne portée par Monsieur Ruffin, qui n'est pas du tout une ligne indigéniste, qui n'est pas du tout une ligne racialiste, antisémite ou antisioniste, eh bien en fait elle parle plus aux électeurs de la France Insoumise que la ligne portée actuellement par Jean-Luc Mélenchon et dans laquelle s'enfonce totalement tout son entourage, Mathilde Panot et puis tous les députés qui sont autour de lui.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, juste une dernière question, Louis Dragnel. On sait qu'hier, Jean-Luc Mélenchon était à Sciences Po Paris. Il y a quelque chose d'un peu ambigu, parce que son meeting est interdit à l'Université de Lille. Là, il est autorisé hier soir à Sciences Po Paris. Rima Hassan sera à Sciences Po aussi demain.
Absolument.
On a l'impression que c'est pas très clair, cette réponse de l'État.
Eh bien, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas clair. On peut pas avoir dans un département, celui du Nord à Lille, une conférence qui est interdite dans une université, un meeting ensuite qui est interdit, et de l'autre côté à Sciences Po. Je suis d'accord avec vous, et je pense qu'il faut que l'État harmonise sa réponse, il faut qu'il y ait une réponse uniforme. Sinon, ça permet aussi à Jean-Luc Mélenchon d'entretenir le fait que il y a une cabale politique contre lui, que le droit, que lui... si vous voulez, quand vous appliquez pas la même décision selon l'endroit où vous vous trouvez, je parle pour l'État, eh bien vous perdez forcément du crédit. Et en plus, quand on ajoute à ça, parce que ce qui s'était passé à Lille, quand le préfet avait interdit le rassemblement politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est tellement sensible qu'il ne peut pas le faire sans l'aval du ministre de l'Intérieur ou sans même des conseillers à l'Élysée. Et ce qui était très bizarre, c'est que le soir même, Emmanuel Macron avait appelé à la liberté d'expression, liberté d'opinion, et donc ça donnait l'impression qu'Emmanuel Macron désavouait son préfet, et je pense que c'était absolument pas le cas, puisque le préfet n'avait pas agi seul. Donc voilà, il y a un enjeu très important aujourd'hui de clarification concernant les meetings dans lesquels est faite la promotion de l'antisionisme.
Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va se retrouver juste après une pause. Nous serons avec le maire de Nice, Christian Estrosi. Il va remettre un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Pour réagir, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir.